Nous venons de voir le miracle de la grossesse de la femme de Sunem. C'est le sixième et nous lisons en deux. Roi 4, à partir du verset 17. Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Donc, l'Éternel prouve d'être le Dieu de la vie, non pas Baal. Et dans ce qui suit, et l'enfant grandit. Il arriva qu'un jour il sortit vers son père, vers les moissonneurs, et il dit à son père: ma tête, ma tête! Le père dit au serviteur: porte-le à sa mère. Il l'emporta et l'amena à sa mère. Il resta sur ses genoux jusqu'à midi et mourut. Et il monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Il ferma la porte sur lui et sortit. Et elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu. Je reviendrai. Elle dit: pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle dit: tout va bien. Elle fit seller l'ânesse et dit à son jeune homme: mène-la et marche. Ne m'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. Alors, nous avons vu ce miracle merveilleux. Elle a reçu un enfant. Mais elle avait dès le début un souci. Peut-être je vais de nouveau passer par des souffrances. Et c'était le cas. L'enfant meurt. Et aussi spécial de voir le mari. Bien sûr. Et il était en train de travailler. Et le garçon dit: ma tête, ma tête! Il avait mal à la tête, mais exceptionnel. Mais le père, il n'a pas réalisé. Il dit: apporte-le vers la maman. Mon épouse m'a dit: oui, mais c'est normal. Il était en train de travailler, alors il fallait l'envoyer. Mais j'ai dit: oui, mais il y a un problème. Il n'a pas cette relation comme la mère avait une relation, n'est-ce pas, unique avec cet enfant impossible, n'est-ce pas, qui était devenu donc tout pour elle. Et maintenant, c'est perdu. Mais le père réalise pas ce qui s'est passé. Et ses pensées sont très rituelles. Il dit: mais pourquoi tu veux aller? Ce n'est pas ça-bas. Mais pas de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est aussi une fête juive, toujours au début des mois lunaires. Mais, quelle raison? Oui, c'est clair. Cet homme de Dieu, il a une relation particulière avec le Seigneur. Et j'ai reçu cet enfant. C'est lui qui avait annoncé. Et maintenant, j'ai perdu l'enfant. Mais s'il y a encore une solution, il faut aller le voir. C'est pour ça, avec une vitesse, elle ne voulait pas être arrêtée entre deux, elle voulait aller aussi vite que possible. Le père ne comprend pas son épouse, ne comprend pas la situation. Et il ne souffre pas vraiment. Il me semble que c'est quand même une vie de couple difficile. Et Alors, encore d'autres exemples dans les Écritures. Si on pense à Job, c'était un homme qui avait une telle piété et une telle relation personnelle avec le Seigneur, était une bénédiction dans la société, n'est-ce pas? Lorsqu'il a passé, tout le monde l'a respecté, il a souri. On lit ça dans la parole. Les gens étaient encouragés seulement par un sourire de Job. Mais lorsque tous ces épreuves sont tombées sur lui, alors là, nous apprenons quelque chose de son épouse qui dit, alors, meurs et dis au revoir à Dieu. Madame Job était tellement différente. Et plus tard, dans les discussions avec les trois amis qui étaient contre Job, là, on apprend entre deux que Job dit, mon souffle est désagréable, est une horreur pour mon épouse. Là, on lit encore quelque chose de l'épouse. Et bien sûr, je n'ai pas mentionné au début, bien sûr, lorsqu'il est dit, Job avait trois filles et sept garçons. Ce n'était pas possible sans l'épouse. Mais autrement, l'Écriture ne dit pas plus sur elle. Et bien sûr, après les épreuves, Job reçoit de nouveau 10 enfants. Et il a reçu tout doublement, n'est-ce pas? Les enfants, il n'a pas reçu 20. Pourquoi? Parce que les 10 étaient au ciel. Il avait le double. Simplement, il avait 10 au ciel et 10 sur la terre. C'est aussi quelque chose qui peut encourager lorsqu'on a perdu un enfant. Mais autrement, on doit dire, mais quelle vie de couple? Comment c'est possible? Où est-ce qu'il y avait de l'erreur? Au début, où Madame Job s'est développée différemment? Et un autre cas, Abigail, qui avait épousé Nabal, un homme méchant, un homme sans piété, n'est-ce pas? Mais elle, c'est aussi remarquable comme il a agi en restant loyal et quand même lié avec le Seigneur. Nous avons des exemples dans les Écritures, non pas seulement des vies de couple qui sont fantastique, mais on a aussi des cas difficiles. Mais on voit aussi comme dans ces cas difficiles, nous avons des modèles, des exemples de fidélité. Il y a cette femme. C'est pas dire, mon mari, il ne comprend pas, il me comprend pas, et puis il comprend pas les choses spirituelles. Non. Elle a toujours essayé de l'inclure, n'est-ce pas? Elle demande. Est-ce qu'on ne peut pas inviter? C'est pas, elle décide pas simplement indépendamment. Mais là, elle n'avait pas le temps pour parler plus. Elle est partie. Eh bien, nous lisons au verset 25. Elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Il arriva que quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Gehazi, son jeune homme, voici cette Tsunamite. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre et dis-lui, tout va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle dit bien. Il vint vers l'homme de Dieu sur la montagne. Elle le saisit par les pieds. Gehazi s'approcha pour la repousser. Et l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me la cache et ne me l'a pas déclarée. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Elle dit à Gehazi, Saint-Terrain, et prends mon bâton en ta main et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. La mère du jeune garçon dit, L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et il se leva et s'en alla après elle. Et Gehazi les dévança et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon. Il n'y eut pas de voix, pas de signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta, disant, Le jeune garçon ne s'est pas réveillé. Alors, il est remarquable, Élisée n'avait pas reçu une révélation sur ce problème. Mais, en contraste avec Gehazi, elle a tout de suite compris, cette femme, elle a une souffrance terrible. Elle est dans de l'amertume. Gehazi n'a pas réalisé. Et il voulait la repousser. Et nous avons vu, le mari n'avait pas compris. Élisée le voit, le problème, et voilà, il envoie Gehazi. Mais par cela, il n'y a pas une réponse divine. C'était du pur ritualisme dans son cas. Mais nous lisons verset 32, Élisée entra dans la maison et voici, le jeune garçon était mort, couché sur son lit. Il entra et ferma la porte sur eux deux et supplia l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains et se courba sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Elle se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là. Elle montait et se courbait sur lui. Et le jeune garçon éternua par 7 fois, et le jeune garçon ouvrit ses yeux. Et Élisée appela Gehazi et lui dit, Appelle cette Sunamite. Elle l'appela et vint vers lui. Elle dit, Prends ton fils. Elle vint et tomba à ses pieds et se prosterna en terre. Elle prit son fils et sortit. Voilà une résurrection. Et c'est la deuxième résurrection qu'on trouve dans les Écritures. La première, n'est-ce pas? Nous avons déjà parlé d'Élie qui était envoyé vers cette veuve libanaise. Et là, le garçon d'elle est aussi mort. Et Élie l'a ressuscité. Et jamais, dès la Genèse, on lit quelque chose sur une résurrection. C'était la première fois. Et dans cette époque, même une concentration de trois résurrections. Élie, Élisée ici, et voilà le dernier miracle. 16. Résurrection d'un homme dans la tombe d'Élisée. 2 Rois 13, verset 21. Alors, quelqu'un mort est mort. On l'a vu jeté dans le tombeau ouvert d'Élisée. Et lorsqu'il a, il a touché, c'est ressuscité. Trois résurrections dans l'Ancien Testament, mais seulement en rapport avec cette époque où Israël s'est détourné de l'Éternel pour croire que Baal est le Dieu de la résurrection. Et il ne l'était pas. Mais l'Éternel peut ressusciter d'entre les morts. Donc, trois cas dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en Hébreu 11 mentionnent ces femmes, ces deux femmes, et qui ont reçu leurs enfants ressuscité d'entre les morts. Eh bien, nous voyons une concentration de signes et de miracles dans l'époque d'Élie et d'Élisée. Et quelques réflexions là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, dans le mouvement charismatique, on dit, oui, Dieu est toujours le même. Il est l'Éternel. En hébreu, Yahvé veut dire l'Éternel, mais aussi celui qui est toujours le même. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, et en éternité, le même. Alors, si Dieu est toujours le même, il produit les mêmes miracles aussi comme dans le temps du Seigneur et des apôtres. Mais il y a une erreur de réflexion. Dieu est toujours le même. Il ne change jamais. Mais il n'agit pas toujours de la même façon. C'est pour ça que nous pouvons aussi découper toute l'histoire sainte en dispensations, en époques où des règles différentes ont joué un rôle. Bien sûr, par exemple, sous la loi, on apportait des sacrifices d'animaux. Mais aujourd'hui, sous la grâce, on n'apporte pas des sacrifices d'animaux, mais des sacrifices spirituels par la prière. Et par exemple, au millénium, là, Dieu va avoir un gouvernement direct sur la terre. C'est-à-dire, le mal sera tout de suite jugé. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une époque où Dieu n'intervient normalement pas directement, indirectement. Il peut utiliser des catastrophes naturelles. Là, il peut utiliser une armée, mais c'est indirect. On ne voit pas Dieu intervenir. Et souvent, on voit les injustes vivre dans le luxe et des justes qui souffrent. C'est différent. Mais Dieu ne change pas, mais suivant les époques, Dieu n'agit pas de la même façon. Et d'ailleurs, signes et miracles. Quand on lit l'histoire depuis les patriarches, avant le déluge, les générations d'Adam, Seth, Enoch, jusqu'à Noé, les 10 générations, pas de miracle. Ensuite, depuis Noé, les générations jusqu'à Abraham, pas de signes et miracles. Dans la vie d'Abraham, il ne produit pas, lui, des signes et des miracles. Et ça continue jusqu'au temps de Moïse, Israël en Égypte. Et là, on a une concentration de signes et miracles en rapport avec les 10 plaies sur l'Égypte. Ensuite, Israël dans le désert pendant 40 ans. Et tout le temps, on a vécu des signes et des miracles. Et plus tard, au pays, la manne ne tombe plus du ciel. Et Gédéon pose la question, où sont les miracles desquels nos pères ont raconté? C'était plus un temps de signes et miracles. Et au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare dans ces jours. Même des révélations des prophètes étaient rares. Donc, ce n'est pas toujours la même chose. Mais lorsqu'on arrive là, vers Élie et l'Élysée, une concentration de signes et miracles. Et voilà 3 résurrections d'entre les morts. Et quand on continue à lire la parole, on doit s'attendre jusqu'à la venue du Seigneur. Et là, une concentration dans les 4 évangiles de signes et de miracles. Pourquoi? Parce que le Messie est là. Et les signes et miracles ont souligné que Jésus-Christ est le Sauveur promis de Dieu, le Messie annoncé à travers l'Ancien Testament, il est là. Et les prophètes ont annoncé que des signes et miracles auront lieu. Les aveugles vont voir, les handicapés seront rendus capables. Mais juste après, les apôtres, et le temps des apôtres, on voit une concentration de signes et miracles dans le livre des Actes. Et là, c'était le début de l'Église, où Dieu a donné des révélations toutes nouvelles qu'on ne peut même pas lire dans l'Ancien Testament. Et pour souligner que cela n'est pas une fausse doctrine, mais c'est de Dieu, il fallait ces signes et miracles. Mais après, dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas continué comme ça au IIe siècle. Troisième siècle, quatrième siècle. Et plus tard, au XXe siècle, des signes et des miracles. Dans le monde entier, n'est-ce pas? Des stades qui sont remplis, des gens qui observent des signes et des miracles. Eh bien, le Seigneur a annoncé pour les derniers jours des grands signes et miracles en rapport avec les faux prophètes. Et voilà, on voit que Dieu n'agit pas toujours de la même façon, mais on voit donc une concentration de signes et miracles en rapport avec Moïse qui a écrit la Torah, les cinq livres de Moïse, la base de la Bible. Et pour souligner l'autorité et l'inspiration des cinq livres de Moïse, il fallait ces signes et miracles. Et n'est-ce pas, souvent la parole parle de l'Ancien Testament comme la loi et les prophètes. Et voilà, Élie et Élisée représentent les prophètes. Et ils ont annoncé le même message que les prophètes de l'Ancien Testament ont toujours annoncé. Et voilà, là, c'est souligné par des signes et des miracles. Et lorsque le Messie est venu, signe et miracle. Et lorsque l'Église a commencé, signe et miracle. Alors ça aide à voir mieux la manière comme Dieu agit. Et pourquoi nous avons donc ces trois résurrections en cette époque? Eh bien, spécialement parce que là, c'était le problème avec cette fausse doctrine de Baal, Dieu de la résurrection, qui ne l'était pas, c'était un Dieu mort. Et même Élie, n'est-ce pas, il a dit, peut-être il dort, parce qu'il était incapable de faire descendre du feu. Mais un homme, un Dieu, qui est un Dieu de la tempête, il devrait faire descendre des éclaircies du ciel. Incapable. Peut-être il est en pensée pour le moment. Et eh bien, on comprend pourquoi il fallait ce signe du feu tomber du ciel pour montrer Baal n'est pas le dieu de la tempête, mais l'Éternel, il sait tout. Et aussi, faire la résurrection d'entre les morts. Donc, c'est très important, ces trois exemples. On va continuer avec 8, désintoxication du potage. 2 rois 4 et au verset 38. Et Élisée retourna à Gilgal. Or, il y avait une famine dans le pays. De nouveau, une famine. Pour prouver que Baal ne vaut rien. Et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Elle dit à son jeune homme, mets la grande marmite et cuis un potage pour les fils des prophètes. Et l'un d'eux sortit au champ pour cueillir des herbes. Elle trouva de la vigne sauvage et y cueillit des coloquintes sauvages, plein sa robe. Il rentra et les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne les connaissait pas. Il en versa à manger aux hommes. Il arriva que, comme ils mangeaient du potage, on cria et dit, Homme de Dieu, la mort est dans la marmite. Et non, on pouvait manger. Il dit, apportez de la farine. Il la jeta dans la marmite et dit, verse-en à ce peuple et qu'il mange. Il n'y avait rien de mauvais dans la marmite. De nouveau, un miracle en rapport avec la nourriture, parce que Baal était confessé comme Dieu de la nourriture, mais il était incapable. L'Éternel peut donner de la nourriture. Et même là où il s'agissait de la fausse nourriture, de la mauvaise nourriture. N'est-ce pas? On lit très souvent dans cette époque des fils des prophètes. C'était des jeunes hommes qui se sont dédiés au service du Seigneur pour être utilisés, d'être prophètes. Et on les retrouve dans les Écritures. Comme une école, et voilà un prophète qui les instruisa et qui aidait à faire des progrès. Et ici, on voit souvent ces fils de prophète, en relation avec d'abord Élie et maintenant Élisée. D'ailleurs, ce phénomène des fils des prophètes était aussi très important en rapport avec la transmission des Saintes Écritures. Donc, à travers les millénaires et les siècles, ça passait à travers ces écoles des fils des prophètes. Eh bien, ça ressemble beaucoup à une assemblée locale, n'est-ce pas? C'était là, ensemble. Et c'était une période de famine. Et ça, on connaît aussi des périodes où le peuple de Dieu passe par des famines. La parole annoncée ne nourrit pas comme il faut. Alors, quoi faire? Eh bien, là, c'est un danger que des jeunes vont se promener partout, ou par exemple dans l'Internet, là, on peut aussi se promener. Voilà, on trouve là. Conférence intéressante de qui, oui, on ne sait pas exactement, mais c'est intéressant. Et voilà des idées étranges, étranges à la parole, même en contradiction avec la parole, est amenée dans l'assemblée. Et alors, on réalise, la mort est dans la marmite. Et quoi faire? Eh bien, le prophète, il prend de la farine. Et la farine, n'est-ce pas, dans la parole, souvent parle de l'humanité du Seigneur Jésus. C'est pour ça, dans les sacrifices, nous avons Lévitique 1 à 7, nous avons les quatre sacrifices sanglants qui montrent quatre aspects différents de l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. D'ailleurs, on peut faire une relation entre les quatre formes de sacrifice et avec les quatre évangiles. Mais on a là aussi donc des sacrifices ou des offrandes plutôt de farine qui ont accompagné. Et voilà, le Seigneur est appelé le fruit de la terre, Ésaïe 4. Le Seigneur est devenu un vrai homme. Il a grandi sur cette terre, mais lui était parfait. Et quand on passe les froments, par exemple, à travers les moulins, n'est-ce pas? On voit après tout ce qui est dedans. On verrait tout de suite s'il y a quelque chose dedans qui n'est pas bonne. Mais la farine parfaite révèle la perfection de la vie humaine du Seigneur Jésus. Et là, il met simplement de la farine. Et dans ce cas, il faut particulièrement présenter le Seigneur Jésus et sa majesté, sa beauté. Par exemple, dans l'épître aux Colossiens, on voit ils étaient influencés par des faux docteurs. Et alors là, dans cet épître, Paul présente le Seigneur Jésus dans sa perfection, dans sa grandeur, pour faire oublier ces doctrines malsaine et voir la richesse en le Seigneur. C'est comme dans le cas où un petit enfant, on le voit jouer avec quelque chose qui est très, très dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on dit, qu'est-ce que tu fais? Il va se faire mal, du mal. Non, il faut rester calme. Et une possibilité, c'est de lui donner un jouet merveilleux, il laisse ce qu'il avait et prend ça. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, et d'ailleurs, ça on voit aussi dans d'autres lettres, Nouveau Testament, et il montre la perfection du Seigneur. Le problème est résolu. On continue avec les versets qui suivent, multiplication du pain et du grain. Quatre, 42. Et il vint de Baal Shalisha, un homme qui apporta à l'homme de Dieu du pain, des premiers fruits. 20 pains d'orge et du grain en épis dans son sac. Et il les a dit, donne cela au peuple et qu'il mange. Et celui qui le servait dit, comment mettrai-je ceci devant 100 hommes? Elle dit, donne-le au peuple et qu'il mange. Car ainsi dit l'Éternel, on mangera et il y en aura de reste. Il le mit devant eux et ils mangèrent et ils en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. N'est-ce pas, c'est un avant-goût de ce que le Seigneur Jésus fera dans les évangiles. Quand on pense ce qu'il a fait pour les 5 000, une autre fois pour les 4 000. On voit tant de parallèles. Et si aussi quelqu'un donne ce qui est une bénédiction, et c'est-à-dire de la bonne nourriture, et le Seigneur donne sa bénédiction pour multiplier. Dans le cas des 5 000, n'est-ce pas, Jean 6, il y avait des milliers qui sont arrivés pour écouter ce docteur de Capernaüm. À l'époque, le Seigneur avait son siège à Capernaüm. Et après des heures d'écoute, eh bien, ils réalisent qu'ils n'ont rien à manger. Mais des adultes qui vont là quelque part et ne pensent pas à prendre avec un pique-nique. Donc, ils avaient un vrai problème. Mais on réalise qu'il y a un garçon avec 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas, un jour, j'ai dit, oui, c'était sa maman qui a réfléchi. Le garçon a dit, j'aimerais écouter ce docteur. Sa parole est unique. Elle lui prépare un pique-nique. Mon épouse m'a dit, oui, mais c'est pas écrit que c'était sa maman. C'est vrai, ça pourrait aussi être sa tante si peut-être sa maman était décédée. N'est-ce pas, il faut pas dire des choses que la parole ne dit pas, mais normalement, c'était la mère. Et peut-être c'était aussi lui qui a pensé, oui, je vais aller là. Ah, je prends un pique-nique avec. Mais qu'est-ce que c'est? 5 pains et 2 poissons? Et voilà, le Seigneur l'a pris. Et il a béni. Il a donné ce qu'il avait. Et le Seigneur donne une multiplication de la bénédiction. Et c'est ici également ce principe. Le Seigneur multiplie ce que nous donnons pour le servir. Ensuite, 10. Guérison de la lèpre de Naaman. 2 Rois 5, verset 14. Mais je commence par quelques versets au début, 5 versets premiers. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son seigneur et considéré, car par lui, l'Éternel avait délivré les Syriens. Et cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. Donc, un homme exceptionnel, qui a fait une grande carrière, un Syrien. Mais il avait un problème. Et voilà, cette lèpre était une maladie terrible. Mais dans ce chapitre, nous lisons comme à cette époque-là, il a été guéri. Le Seigneur reprend cette histoire, n'est-ce pas, en Luc 4, lorsqu'il était à Nazareth, à la synagogue. Il avait fait la lecture des prophètes. Ensuite, il a prêché. Il a dit, à l'époque d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Élie n'est allé seulement vers cette veuve au Liban, à Sarepte. Ensuite, il explique, à l'époque d'Élisée, il y avait bien des lépreux en Israël, mais seulement Naaman le Syrien était guéri. Et pourquoi cela? Le Seigneur voulait montrer que la grâce de Dieu passe plus loin que les frontières d'Israël. N'est-ce pas? C'était une difficulté en Israël, ayant appris par les parents, nous sommes le peuple élu. Cela ne voulait pas dire, alors Dieu a rejeté les autres. N'est-ce pas? Ça serait une forme de calvinisme qui prend l'élection, le oui de Dieu, comme un non aux autres. Mais l'élection d'Israël était une élection, comme Dieu dit à Abraham, sa descendance sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Genèse 12, verset 3. Donc, l'élection d'Israël n'est pas le rejet des autres nations, mais c'est la chance pour toutes les nations, parce que hors de ce peuple élu devait venir le Messie qui devrait mourir à la croix pour les péchés en vue du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé les élus. Ça serait aussi juste de dire. Ça serait biblique. Mais il faut comprendre correctement ce que ça veut dire. Et la parole dit, Dieu a tant aimé le monde. Alors, il faut annoncer un évangile qui montre Israël est le peuple choisi. Jamais renier cela, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les autres. Et ces deux exemples devaient montrer que la grâce de Dieu va vers les Libanais et vers les Syriens. C'est très actuel, le message. Et bien sûr, il représente aussi les Suisses, les Français, etc. Mais la parole parle spécialement de cette femme libanaise et de cet homme syrien. Et encore une pensée particulière, guérison de la lèpre. On trouve à l'époque de Moïse, pour la première fois dans la Bible. Et n'est-ce pas, Nombre 12, Myriam qui était guérie de la lèpre. Mais après l'époque de Moïse, on ne trouve plus jamais un exemple de guérison de la lèpre en Israël. À l'étranger, oui. Naaman, les Syriens. Et quand on réalise cela, on comprend pourquoi les rabbins, dans leurs écrits, ils ont dit, la lèpre, celui qui a la lèpre, c'est comme un mort qui marche. Guérir la lèpre, c'est comme ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Ça place aussi dans cette époque, n'est-ce pas? Où le thème de la résurrection est important. Important. Alors, maintenant, on comprend, lorsqu'en Luc 5, le Seigneur rencontre un lépreux. Il dit, si tu veux, tu peux me guérir. Le Seigneur dit, je veux. Ensuite, il l'envoie vers les sacrificateurs pour se montrer et pour offrir des sacrifices comme Moïse avait prévu. Selon Lévitique 13 et 14. Ce sont deux chapitres. Un chapitre qui donne la diagnose de la lèpre, pour distinguer des autres maladies de la peau. Et c'est pour ça qu'on a établi des sacrificateurs médecins spécialisés. Ils devaient faire la diagnose. Et Lévitique 14 explique, si quelqu'un est guéri de la lèpre, il faut faire tous ces rituels et ces sacrifices. Eh bien, on a pu utiliser chapitre 14 après l'époque de Moïse, puisqu'on n'a jamais rencontré la guérison d'un lépreux. Mais on avait ce chapitre. 13, oui, parce que la diagnose, il fallait faire à travers l'histoire. Et c'est pour ça, celui qui était déclaré lépreux, il était inscrit. Donc c'était officiel, cette diagnose. Et voilà le Seigneur, Luc 5, il l'envoie vers les sacrificateurs. Et alors, il était dans l'archive. Il était lépreux. Et maintenant, il est guéri. C'était officiel. Luc 5, juste quelques versets. Et là, on peut aussi démontrer comment parfois on est en danger de faire une lecture superficielle de la parole. Parce qu'on ne réalise pas vraiment ce qui est écrit. Alors, d'abord, versets 12 à 16, guérison du lépreux. Et juste après, verset 17, et il arriva l'un de ces jours, il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. L'a bien lu? Qui est arrivé après? Des pharisiens et des docteurs de la loi, des rabbins, qui était venu de chaque bourgade de Galilée. Galilée, le nord d'Israël. Une invasion de rabbins à Capernaum. Mais pas seulement cela. N'est-ce pas? Si on lit vraiment ce qui est écrit, on est surpris. Et de Judée. Donc, de chaque bourgade de Judée, le sud d'Israël. De chaque ville. En quelque sorte, toutes les synagogues, les rabbins sont arrivés. Et en plus, et de Jérusalem, sur de la capitale. Et les docteurs les plus renommés. Pourquoi? C'était clair. Guérison d'un lépreux, c'est unique. Alors, ce miracle est attesté officiellement. Donc, il se peut que cet homme soit le Messie. C'est pour ça, après, ils font une recherche, ils observent sans rien dire. Ils pensent, mais ils disent rien. Le Seigneur connaît les pensées. Et après, une deuxième phase où ils commencent à poser des questions. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Les disciples de Jean le font. C'est le Messie, mais pourquoi il passe si dur comme Jean? Il pourrait penser. Il pose des questions pour trouver est-ce que c'est le Messie. Alors, ça montre l'importance de ce miracle qui s'est fait aussi là dans le temps d'Élisée, qui était bien sûr avec ça un type de Christ. Comme déjà par la multiplication des pains et aussi ici. Alors, une petite jeune fille a été prise comme prisonnière en Syrie et elle dit à Madame Naaman, Naaman devrait aller vers le prophète en Israël. Il pourrait peut-être l'aider. C'est remarquable, n'est-ce pas? On connaît ce thème des Juifs qui sont amené en captivité. Mais on ne voit pas d'amertume chez cette jeune fille. Elle pensait, merveilleux. Ce Naaman est lépreux, espérant qu'il meure bientôt. Non, de la grâce. Et voilà, il va en Israël, il veut aller vers le roi. C'est impie. Bien sûr, il est incapable de l'aider. Mais bien sûr, il y a là ce prophète. Et le prophète ne veut pas le rencontrer. Quelle offense! Quelqu'un qui a fait une telle carrière parmi les Syriens, le prophète ne veut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer que c'est pas lui qui fait le miracle. C'est Dieu. Et ce païen doit connaître le seul vrai Dieu. Il donne simplement donc le commandement d'aller dans le Jourdain Cette fois, allez dans l'eau et il sera guéri. Donc, il est furieux parce qu'il trouve en Syrie, on a aussi des fleuves, n'est-ce pas? Qui tombent, qui se jettent depuis l'antique Liban. Il a mentionné là, Abana, Papa, les rivières de Damas, verset 12. Donc, il trouve notre eau syrienne est encore mieux. Mais il devait aller dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que le Jourdain, c'est le fleuve de la mort qui descend à la mer morte. C'est le symbole de la mort. C'est pour ça, toujours dans la parole où il y a la traversée du Jourdain, ça symbolise donc la mort et ensuite la résurrection avec Christ. Et lorsque Élie et Élisée sont passés par le Jourdain, et Élisée est retourné, c'est toujours cette pensée de la mort et de la résurrection. Et dans ce contexte, ça a une signification spéciale, n'est-ce pas? Eh bien, il devait aller dans ce fleuve. Et voilà, il avait aussi l'idée, mais peut-être le prophète pourrait venir et puis mettre sa main. Oui, mais ça, c'est la pensée ésotérique. N'est-ce pas, qu'il croit en des forces cosmiques dans la nature. Et il fallait pas lui imposer la main pour soutenir cette fausse idée païenne qui n'est pas l'idée biblique. Et alors, il devait accepter que le chemin vers la guérison n'est pas le chemin que l'homme s'imagine. Et c'est parfois le problème lorsqu'on parle avec des incrédules et explique le chemin vers le salut. Ils disent, oui, mais c'est trop simple. Et j'aimerais aussi faire quelque chose. N'est-ce pas? Je vois ma dette dans ma vie, mais j'aimerais aussi faire quelque chose. Eh bien, il faut expliquer, non. Le chemin, c'est, nous pourrons rien faire. Et il faut voir, le Seigneur est mort pour nos péchés et ressuscité. Et voilà, se mettre dans le Jourdain, c'est comme dire la mort de Christ est ma mort. Sa résurrection est ma résurrection. N'est-ce pas exactement la pensée du baptême? Eh bien, il est finalement guéri. Il voulait payer. Le prophète dit, on n'accepte rien du tout. N'est-ce pas? Vouloir payer, c'est corrompre l'évangile. Le salut est sans paiement, gratuit. Et alors, son serviteur, Gehazi, il aime l'argent. Et c'est pour ça il va vers lui et demande de lui quand même donner un peu. Et il reçoit. Et là, il devient aussi un lépreux. Verset 27. Et ça, c'est donc le miracle 11. Et j'aimerais d'abord lire 10 au verset 14. 5, 14. Et lui commanda de ne le dire à personne. Mais va et montre-toi. Non. Oui, j'étais encore en Luc. Deux rois. 5. Et au verset 14. Je lis depuis 12. L'Abana et le Parpar, rivière de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ainsi parle un Syrien qui n'aime pas Israël. Les choses vont changer. Ne puis-je pas m'y laver et être pur? Il se tourna et s'en alla en colère. Et ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui parlèrent et dirent, Mon père, si le prophète Tu dis quelques grandes choses, ne l'eusses-tu pas faite? Combien plus quand il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Elle descendit et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Elle fut pure. Mort et ressuscité. Et voilà, à la fin, verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta semence pour toujours. Et Gehazi sortit de devant lui, lépreux, blanc comme la neige. Eh bien, c'est de nouveau un miracle de jugement, mais pour nous montrer combien grave il est quand on corrompt l'évangile. Et on dit, oui, la grâce, mais aussi un paiement. Le paiement. Et ça va être un sujet important pendant des siècles, à travers l'histoire du christianisme, n'est-ce pas? Mais on a ici, dans l'Ancien Testament, déjà l'enseignement contre. Ensuite, miracle 12, 2 rois 6. Je lis à partir du verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Ils ont grandi. Pas cette petite assemblée de fils des prophètes. Ils se sentent, ils sont grandis et ils n'avaient plus de place. Ça se peut aussi, une assemblée locale réalise, n'a plus assez de la place. Nous sommes maintenant dans ce cas-là. Alors, on voit un problème. On doit avoir un local beaucoup plus grand pour au moins 300. Eh bien, ça grandit, c'est beau. Et nous continuons, verset 2. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain et nous y prendrons chacun une pièce de bois et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Donc, c'était à Jéricho. Et maintenant, ils vont vers l'est, en direction de la Jordanie, là où le Jourdain se jette à la mer Morte pour habiter. Mais toujours dans le pays de la promesse. Donc, ils sortent pas du pays. Et il dit, allez. Et l'un d'eux dit, consens, je te prie, à venir avec tes serviteurs. Et il dit, j'irai. Il alla avec eux, et ils vinrent au Jourdain et coupèrent des arbres. Il arriva comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, que le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria et dit, Hélas, mon maître, il est emprunté. Et l'homme de Dieu dit, Où est-il tombé? Il lui montra l'endroit, et Élisée coupa un morceau de bois et les jeta. Et fit surnager le fer. Et il dit, enlève-le. Il entendit sa main et le prit. Alors, pour construire là une nouvelle place pour cette assemblée de témoins du Seigneur, Élisée est avec eux et voilà aussi l'aide du Seigneur. Et là, nous avons le problème où quelque chose est tombé, un outil, dans le Jourdain, il parle de la mort. Et par ce miracle, où tout d'un coup, contre les lois naturelles, le fer peut nager, ça parle de la résurrection, qui est aussi contre les lois naturelles. C'est normal, nous le disons, c'est contre les lois naturelles. Eh bien, ça parle aussi donc de la force du Seigneur pour vaincre la mort et donner la résurrection. Et c'est cette force que le Seigneur nous donne aussi pour avancer comme une assemblée, pour être un témoignage dans ce monde. Et voilà. Ensuite, verset 17, chapitre 6. C'était une époque difficile où l'armée syrienne est venue voir les contre Israël. Et voilà, je lis à partir du verset 8. Je devrais encore ajouter, ah bon, dans ce miracle avec le fer qui nage, c'était du bois qu'il a jeté dedans. Et cela, nous connaissons déjà, n'est-ce pas, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, en Exode, ils sont passés vers des eaux, dans le désert, mais c'était amer. On ne pouvait pas boire. Et là, Moïse a pris un bois, l'a jeté dedans, et l'eau est devenue potable. Et voilà, la croix, en Galates 3, est appelée le bois. Donc le bois parle de la croix de Christ. Et c'est toujours la croix de Christ qui est la réponse au problème de l'amertume, de l'eau amère. Et c'est aussi la réponse à chaque problème qui peut arriver dans notre vie, même dans le travail pratique, comme nous avons vu. Et maintenant, verset 8. Or, le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël. Et il tint conseil avec ses serviteurs, disant, en tel et tel lieu sera mon camp. Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, garde-toi de passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé. Il avait averti. Élie fut gardé. Cela eut non pas une fois ni deux fois. Cela eut lieu non pas une fois ni deux fois. Et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela. Et il appela ses serviteurs et leur dit, ne me déclarerez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël? Donc il avait peur, c'était un problème parmi les. Il y avait un espion qui est lié avec Israël. C'est pas, c'est un problème très, très actuel pour les ennemis d'Israël. Mais là, c'était différent. Le prophète savait toujours où. Verset 12. Et l'un de ses serviteurs lui dit, personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Elle dit, allez, et voyez où il est, et j'enverrai et je le prendrai. Et on lui rapporta, disant, le voilà à Dothan. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez Dothan? Ça me frissonne presque. Dothan, ça veut dire deux sources. Et c'était le lieu où Joseph avait cherché les frères. Et lorsqu'ils l'ont vu venir, ils se sont décidés, on va le tuer. On va le jeter dans une de ces deux puits de source. J'ai été à Dothan. Verset 2, puis on les voit toujours. Et quand on voit là, on voit à travers la vallée et on voit depuis très loin, peut-être 1 km, 2 km, quelqu'un qui vient de Sichem, comme Joseph venait de Sichem à Dothan. Ensuite, ils l'ont jeté là dans un de ces puits. Eh bien, là, Élisée à Dothan. Un lieu très dangereux. D'ailleurs, pour moi, c'était aussi dangereux à un moment. J'étais là avec un groupe et voilà, un Palestinien arrive avec sa voiture et me dit, Il veut que je me parle en hébreu. J'ai toujours répondu en anglais. Et il essaie de forcer. Et je suppose, puisque Dotan, c'est tout près de Jenin, c'est vraiment un centre de terroristes, bon, qu'il voulait identifier si je suis israélien, et ça aurait été très dangereux. Donc c'était une situation vraiment spéciale. Mais j'ai parlé pas un seul mot hébreu parce que j'ai senti il y avait un vrai problème. Alors ça, c'est Dotan pour moi. Alors, continuons verset 14. Il envoya des chevaux et des chars et de grandes forces. Ils allèrent de nuit et environnèrent la ville. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars. Son jeune homme lui dit, Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? Sont vraiment dans une situation terrible, pénible, dangereuse. Et quand il fut arrivé à la colline, pardon. Verset. Seize. Et Élisée pria et dit, Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme. Il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alors, c'est le miracle numéro 13, ouverture des yeux du serviteur d'Élysée, pour voir que le Seigneur utilise les forces angéliques en vue du peuple de Dieu. Comme nous apprenons aussi par Hébreux 1, verset 13, que les anges sont aussi utilisés par le Seigneur en vue des croyants. Mais là, il a donc donné cette opportunité unique ou très rare. Il a pu voir cette réalité que le Seigneur est au-dessus de tout. Et d'ailleurs, là, il y a de nouveau une relation parce que selon les mythes cananéens, on représentait Baal comme quelqu'un qui était sur un char céleste, et avancé sur les nuées. Vous voyez, les chars de feu en rapport avec Élie et son enlèvement, et ici aussi les anges dans des chars de feu. Eh bien, pour le vrai Dieu, là, c'est une réalité, mais en rapport avec les mythes cananéennes, c'était la fiction. Ensuite, verset 18. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Elle pria l'Éternel et dit, Je te prie, frappe cette nation de cécité. Elle les frappa de cécité selon la parole d'Élisée. Alors, le cas où les yeux sont ouverts et là, les yeux fermés. C'est de nouveau un miracle, numéro 14. Ensuite, 19. Et Élisée leur dit, Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Venez après moi et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez. Il les mena à Samarie, vers la capitale. Et il arriva, quand ils furent entrés à Samarie, qu'Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux à ces hommes, afin qu'ils voient. Nouveau miracle. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent, et voici, il était au milieu de Samarie, puis à Dothan. Et le roi d'Israël dit à Élisée, quand il les vit, frapperai-je mon père? Et il dit, tu ne frapperas point. Ce que tu auras fait captif avec ton épée et ton arc. Les frapperais-tu? Non, ça va pas. Quand on a des prisonniers de guerre, On les traite dignement. C'est tout clair. Ça va pas. C'est inhumain quand on fait autrement. Ça, nous apprenons par les Écritures. N'est-ce pas? La société biblique à Gaza City, pendant des années, et elle a fait un service merveilleux à Gaza. Et on ne sait pas combien de conversions ont eu lieu. Mais c'est ça l'enseignement, n'est-ce pas, qu'il faut pour ces gens qui connaissent que la vénération de la mort. Mais ici, on voit l'enseignement biblique, il faut les traiter dignement. C'est pour ça que je lis aussi au verset 21, 22. Tu ne frapperas point ceux que tu auras fait captifs avec ton épée et ton arc. Les frapperais-tu? Mets du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur Seigneur. Elle leur prépara un grand festin, et ils le mangèrent et burent, et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Et les bandes des Syriens ne revinrent plus dans le pays d'Israël pour une époque après son revenu. Mais ça les a marqués. Ce témoignage de grâce vis-à-vis des ennemis. N'est-ce pas? Ça correspond au verset dans les Proverbes où il dit qu'il faut nourrir ton ennemi. Et c'est repris en Romains 12, n'est-ce pas, pour nous enseigner comment il faut se comporter vis-à-vis des ennemis avec de la grâce. N'est-ce pas, dernièrement, des centaines de prisonniers palestiniens ont été envoyés, libérés, ils ont tous reçu un t-shirt. C'est écrit en hébreu, on n'oubliera pas. Et on ne pardonnera jamais. C'est non pas l'enseignement de l'Ancien Testament et non pas l'enseignement du Nouveau Testament. N'est-ce pas? On peut comprendre des réactions, mais là, c'est l'Évangile qui doit entrer et apporter la lumière. Et voilà, alors une merveilleuse illustration de Proverbe 25, versets 21 à 22. Je vais encore lire. Et celui qui te haït a faim, donne-lui du pain à manger. Et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car tu entasseras des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. C'est merveilleux, c'est l'enseignement de l'Ancien Testament répété en Romains 12, verset 20. Ensuite, le dernier, nous avons déjà traité en quelque sorte, 16. Résurrection d'un homme dans la tombe d'Élisée. 13, 21. Pour finir. Je lis à partir du verset 20. Et Élisée mourut. Et on l'enterra. Et des troupes de Moab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Et il arriva que, comme on enterrait un homme, voici, on vit venir la troupe et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Donc, là, de nouveau, le prophète est un type du Seigneur Jésus, le Messie. Et voilà, toucher, ce n'est pas une chose ésotérique, n'est-ce pas? Mais toucher, le symbolisme dans la Bible, c'est avoir de la communion, on touche, et jusqu'à une identification. N'est-ce pas? Nous avons vu Élisée qui a mis ses yeux sur les yeux du garçon, sa bouche sur sa bouche, et ça, c'était une identification. Et voilà, notre identification avec Christ a fait possible que Dieu a pu attribuer la mort et la résurrection de Christ à nous. Et ici, touché, et voilà, la mort du prophète devient la vie pour le mort. Et ainsi, le Seigneur est mort pour nous, pour nous donner la vie. C'est comme un paradoxe. Et par le paradoxe de l'évangile, nous sommes sauvés. Et cela est déjà préparé par ces merveilleuses images que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Voilà les 16 miracles d'Élisée.
Voilà, nous vous remercions pour l'écoute de chacun et nous allons terminer ici avec le chant 115 du reflet.